Et voilà, une année de plus, une année qui arrive. Qu'est-ce qu'elle nous réserve ? Ça, c'est la première façon de considérer la nouvelle année. Et pour avoir la deuxième façon, qui est la façon du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 11, qu'on connaît vraiment bien, verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, c'est la bonne façon, celle-là, de se dire que cette année, il va peut-être revenir. Un jour, ce sera ça, forcément. Et si on ne fait que contempler la chose comme une chose banale, évidemment, on n'a pas cette révélation que Dieu veut nous donner. Mais si on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, et qu'on puisse demander à Dieu qu'il mette dans notre cœur chaque jour qu'il faut qu'on l'attende, avec tout ce que la parole nous demande, ce que ça comporte. Et là, ce sera vraiment la bonne façon pour toute l'année. Et un jour, quand il viendra, on ne sera pas surpris parce qu'on l'aura attendu. Alors on va le prier. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions beaucoup d'être encore réunis ce matin dans ton Église pour glorifier Jésus qui nous a tout donné sur cette croix. Et le dernier chapitre du Cantique, dernier verset, c'était « Il va venir avec splendeur ». Ta parole nous le dit. Seigneur, qu'aujourd'hui, et tous les jours de cette année, tu nous mets dans le cœur, on te le demande, que tu vas bientôt revenir, peut-être aujourd'hui ou peut-être demain, pour que nous puissions, dans la joie, préparer ton retour. Amen.
En attendant que le Seigneur revienne, nous allons donc nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Et on va prendre le texte que Michel déjà a évoqué ce matin, c'est 1 Corinthiens 11, au verset 23. Alors, ce texte qui nous rappelle la façon de Seigneur instituer pour lui rendre hommage pour ce qu'il a fait pour nous. Verset 23, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous sommes donc réunis ce matin pour passer un moment autour du souvenir du Sauveur et autour du souvenir du sacrifice qu'il a enduré. Malgré le temps, nous avons pu revenir jusque-là et puis nous avons consacré ces instants pour rappeler l'œuvre parfaite du Seigneur qui est résumée dans ce verset dont on sait tous par cœur, qu'on connaît tous par cœur, mais qu'il nous faut répéter tellement il est complet. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 rajoute « Et que le monde soit sauvé par lui. » Ce Fils, ce Sauveur, a quitté sa gloire, a accepté la mission de s'abaisser, de devenir homme et de devenir même péché, d'être ensuite notre substitut, de subir la colère de Dieu à notre place, car n'oublions pas, nous avions la colère de Dieu sur nous. Ses souffrances sur la terre sont rappelées chaque dimanche ou presque. Je vous citerai quelques versets, quelques phrases de Ésaïe 53. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Voilà la part du serviteur Jésus-Christ, du serviteur de Dieu. Nous rappelons ce matin que nous étions aussi dans l'ignorance, que Dieu dans son amour nous a cherchés et il a su trouver nos cœurs. Nous le prouvons aujourd'hui en étant ici. Il nous a présenté ce que son Fils a fait pour nous, ce chemin extraordinaire d'abaissement et d'obéissance en allant jusqu'à la croix. Il nous rappelle ce matin dans quel état nous étions par rapport à notre vie future. Vous étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Et nous pouvons proclamer que maintenant, nous avons la paix avec notre Créateur. Voici ces rappels très succincts pour nous préparer à la scène et pour le remercier. Et puis, en relation bien sûr avec ceci, je vous propose de lire deux textes. On va lire un texte dans Genèse et un texte dans Luc. Alors, dans Genèse 22, versets 4 à 8. Genèse 22, versets 4 à 8. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père » et lui répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. En parallèle de ce texte, on va prendre donc Luc, chapitre 22, les versets 39 à 46. Luc 22, 39, 46. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Sur le texte de la Genèse d'Isaac et d'Abraham, j'aurai deux remarques. Le Seigneur m'a montré deux choses particulières. Alors, ce n'est pas pour reprendre l'histoire d'Abraham et d'Isaac, hein, on la connaît et puis ce n'est pas le sujet. Mais la première remarque illustre ce qui vient d'être dit au sujet du Seigneur. Nous l'avons dit que nous l'avons chargé de nos péchés. Nous avons lu dans Genèse, Abraham chargea son fils du bois de l'Holocauste. Abraham avait résolu d'obéir et devait offrir son fils Isaac. Et il alla jusqu'à l'endroit du sacrifice avec cette matière, le bois. Il le chargea de cette matière, le bois, qui devait le faire mourir. Quelle image de Dieu qui a chargé son fils de ce qui allait le faire mourir sur une croix, vous voyez de quoi je parle. Il l'a chargé du péché de tous les hommes et du nôtre en particulier. Il a déposé sur sa conscience tous les péchés des hommes. C'est une image saisissante que ce terrible fardeau déposé sur le Seigneur Jésus. C'était une charge mentale incroyable, une charge psychologique qui l'a conduit vers des angoisses qui sont non mesurables, incommensurables. Ésaïe 53, verset 11, « Il se chargea de leur iniquité. » Nous l'avons donc chargé nous-mêmes. Dans cette charge, il y a nos manquements, nos erreurs, nos mensonges et tout ce que le Seigneur a en horreur. Et tout a été pris par le Seigneur pour nous assurer notre salut. Néanmoins, cela doit nous inciter à vivre dans la sainteté, à vivre, je dirais au minimum, dans le respect de ce qu'il a enduré pour nous, pour cette charge de nos péchés qu'il a pris. La deuxième remarque dans ce texte de Genèse, c'est au verset 8. Il se termine par cette phrase « et ils marchèrent ensemble ». C'est même dit deux fois, au début du verset 7 et à la fin du verset 8. Abraham aurait pu peut-être envoyer un serviteur pour cette mission. Mais il ne quitte pas son fils Isaac, qui est le symbole du Fils de Dieu. Il marche vers cette montagne, vers le lieu du sacrifice. Ils marchent ensemble. C'est une image aussi saisissante du père qui accompagne la victime, son propre fils, dans ce qu'il lui a demandé de plus terrible. Dieu n'a pas laissé son fils Jésus tout au long de ses missions qu'il a accomplies sur la terre. Et Jésus avait bien recours à son père aussi pour la puissance qu'il avait besoin pour ses miracles. Sur cette terre, ils ont donc marché ensemble. Dieu n'a jamais abandonné Jésus pendant le chemin de la croix. La preuve ultime, c'est qu'il l'a ressuscité et qu'il est à la droite du Père maintenant. On peut parler d'abandon seulement pendant les 3 heures de ténèbres sur la terre, au moment où il expiait nos péchés. Ainsi comme Abraham et Isaac marchent ensemble vers le sacrifice, Dieu n'a pas oublié son fils dans ses angoisses. Et dans le texte que nous avons lu, il ne s'est pas éloigné de Jésus, puisqu'il lui a envoyé un ange pour le fortifier. Il l'a fortifié face aux angoisses et face au combat décisif sur lequel reposait le salut de l'humanité et le nôtre aussi. Jésus ne pouvait, par ses tourments, faire échouer son programme, son plan. Dieu marchait avec lui. Il était là pour l'aider et pour le soutenir. Alors ce mot « fortifié » a résonné dans mon esprit plusieurs jours. Je ne savais comment l'exploiter, mais le Seigneur m'a donné ceci. J'ai cherché aussi la définition de fortifier, rendre fort, plus fort, renforcer, développer la force, la résistance physique ou psychique de quelqu'un. Dieu n'est pas en reste pour fortifier, pour vivifier ceux qui marchent avec lui, qui marchent dans ses voies, qui obéissent, on peut rajouter, qui l'attendent. Dieu a envoyé un ange pour fortifier notre Seigneur. Cela rappelle le psaume 91, verset 11. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes ses voies. Et comme toutes les paroles de la Bible sont utiles pour nous, nous pouvons aussi considérer qu'il va fortifier chacun de nous dans chaque besoin que nous avons. Bien que Dieu n'ait pas eu à délivrer le Fils de ses souffrances, il l'a néanmoins fortifié et soutenu. Spurgeon dit « Ne doute pas de la grâce qui fortifie à cause de tes épreuves, mais crois qu'il t'aime autant dans les moments difficiles que dans les moments heureux. » Voilà, avec l'image que le Seigneur a donnée, que Dieu a donnée pour son Fils, voilà qui nous fortifie et qui nous rassure en l'attendant. Alors, on va remercier le Seigneur maintenant, en partageant donc la scène, se souvenir de la grâce qu'il nous a fait en se chargeant de nos péchés, en se chargeant de notre dette, en subissant la croix. Et on n'oubliera pas que, comme pour Jésus, il fortifie ceux qui crient à lui. Et puis, ce verset de Ésaïe 41, verset 10, qui nous dit « Je te fortifie, je viens à ton secours. » Voilà, nous voulons le remercier et prier. Notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, parce que tu as pris notre place. Tu t'es chargé, tu as pris sur ta conscience tous nos péchés, tu es même devenu péché. Et Seigneur, nous te devons la reconnaissance et la vie de sainteté qui découle de cette reconnaissance. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu n'abandonnes personne, tu n'as pas abandonné ton Fils. Tu étais avec lui, tu as marché avec lui dans cette épreuve et tu veux aussi soutenir tous ceux qui ont besoin de toi et qui crient à toi. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.
Il y a des messages qu'il est bon d'entendre et de réentendre et qu'on n'entendra jamais suffisamment. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu de nombreuses fois. Moi aussi, je vous en ai déjà parlé. D'autres vous en ont aussi déjà parlé. Et pourtant, il est toujours bon de rappeler les bases. À une époque, je donnais un enseignement le dimanche matin à des ados. Le thème de cet enseignement était l'Église. Il y avait beaucoup de textes à lire. Et un jour, les jeunes m'ont dit « Oui, mais ce texte-là, tu nous le lis tous les dimanches. » Quel texte sur l'Église est-ce que je pouvais leur lire tous les dimanches ? Nous allons ouvrir aujourd'hui acte 2, 42. Ou alors vous allez me le réciter par cœur. Comme vous voulez. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je me souviens avoir insisté sur l'importance de la persévérance la dernière fois que j'ai parlé de ce texte. Aujourd'hui, nous allons reprendre les quatre comportements qu'avaient ces premiers chrétiens. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Commençons par la fraction du pain. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre. Commençons par la fraction du pain. Nous avons chaque dimanche, et nous venons de le faire, nous avons chaque dimanche un enseignement sur la fraction du pain et nous avons sa mise en pratique. C'est de plus en plus rare dans les églises. C'est de plus en plus rare d'avoir un enseignement sur la scène. C'est de plus en plus rare d'avoir aussi un partage de ce repas du Seigneur dans les églises. Pour les uns, c'est une fois par mois. Pour d'autres, c'est quand on y pense. Pour d'autres encore, c'est une fois par an à Pâques. Le sacrifice de Jésus, c'est l'événement le plus important de la Bible. En fait, non. C'est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Alors, quand faut-il le commémorer ? Je ne m'attarde pas sur le comment, on en parle tous les dimanches. Quand faut-il le commémorer ? Une fois par an, est-ce que c'est assez ? J'en vois qui hoche la tête en disant non. Une fois par mois, est-ce que c'est assez ? Une fois par semaine, est-ce que c'est assez ? Est-ce que vous avez l'habitude de remercier Dieu avant chaque repas ? Est-ce qu'il ne faudrait pas commémorer le sacrifice de Jésus chaque fois que nous rompons le pain ? Donc, à chaque repas ? Est-ce que ce serait trop ? Je vous le dis tout de suite, ce serait jamais trop. Ça fait partie des choses qui ne sont jamais trop. Réfléchissez-y, que chacun se place devant le Seigneur et pense à la façon dont il pratique la scène, une fois par semaine, ou plus souvent. Que chacun s'examine soi-même. Alors un autre élément qui est mis en avant dans notre texte, c'est l'enseignement des apôtres. Cet enseignement des apôtres, alors les apôtres, ils sont un peu morts depuis, mais bon, on a accès à cet enseignement au travers de la Bible. Est-ce que nous recevons un enseignement suffisant ? Alors là, il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? L'enseignement, il est en train de remettre en question l'enseignement qu'on donne dans l'Église, il en fait partie aussi, qu'est-ce qu'il raconte ? Eh bien non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai demandé si cet enseignement suffisant est reçu, pas est donné. Est-ce que nous recevons un enseignement suffisant ? Je dois vous le dire, j'ai connu d'autres assemblées, et ici l'enseignement des apôtres est clairement annoncé, et dans son intégralité. Ça aussi, c'est de plus en plus rare dans les enseignements donnés dans les églises. On a de moins en moins souvent l'intégralité du message biblique. On se contente d'encouragements, d'éléments qui sont motivants, de choses qui sont agréables à entendre. Mais les enseignements sur le péché, les enseignements sur la repentance sont malheureusement de plus en plus rares. L'enseignement des apôtres est clairement annoncé. Un enseignement qui est enraciné dans la Bible, parce que là aussi, on entend de plus en plus de choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, plus avec l'expérience vécue au quotidien, biblique ou pas. Nous recevons cet enseignement à la fois le vendredi et le dimanche, mais qu'en faisons-nous? Alors c'est Jacques qui nous en parle de ça. Je vous invite à prendre Jacques 1, les versets 22 à 24. Jacques 1, 22 à 24. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mettez en pratique la parole. Que faisons-nous de ce que nous entendons le vendredi et le dimanche? Est-ce qu'une fois passé la porte, tout est oublié? Est-ce que nous nous en souvenons, mais que finalement nous n'en tenons pas compte? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas seulement persévérer à l'écouter, mais bien à l'entendre et à l'appliquer. Continuons. Troisième élément, les prières. Il y a bien des années, j'ai suivi un enseignement sur la prière. Quelqu'un qui était un grand spécialiste, ne faisant que des conférences sur la prière. C'était très intéressant ce qu'il nous disait. Cet orateur nous a montré qu'il est assez facile de prier pendant une heure de suite. Et sans se retrouver en plein milieu en disant « je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus de quoi parler ». Il y a quelques techniques, ça reste de la technique, mais c'est relativement facile à faire. Au début, c'est un peu artificiel, mais avec de la persévérance, je suis persuadé que cela devient naturel. J'ai cité le mot « persévérance ». On retrouve la persévérance. Il persévérait. Persévérer dans la prière, c'est quelque chose d'important. Alors, prier une heure, moi, c'est une persévérance que je n'ai pas eue, je vous l'avoue. Chacun s'examine soi-même. Alors, prier, oui, mais comment prier? Alors, on n'est pas les seuls à poser la question. Les disciples ont posé la question à Jésus. Et vous connaissez tous par cœur la réponse. Matthieu 6, 9 à 13. Et celui-là aussi de texte, vous pourriez me le citer par cœur. Matthieu 6, 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà comment il faut prier, et je pense que vous le saviez. On peut, dans cette prière, voir deux parties. Une partie où Jésus remercie le Père, et le loue et le bénit, et puis une partie où il fait part de ses requêtes. Alors je vous raconte souvent cette histoire d'un missionnaire qui distribuait des petits signets pour mettre dans la Bible et puis l'avoir toujours sous la main. Sur ce petit signet, il y avait deux faces. D'un côté, il y avait tous les sujets de reconnaissance et de l'autre côté du petit signet, il y avait tous les sujets d'intercession, toutes les demandes. Je vous laisse deviner quel côté était le plus garni? Peu de reconnaissance et beaucoup de demandes, malheureusement. Alors, il y a un chant qui peut nous aider là-dedans. On pourra chanter peut-être tout à l'heure, c'est le numéro 45 sur les ailes de la foi. Je vous lis le texte. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Et puis, il peut y avoir différentes circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et pourtant, il faut compter les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui, là-haut, te reste encore. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui, chaque jour, répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Voici comment trouver des sujets de reconnaissance. Et puis, dans notre texte, ce n'est pas que de la prière individuelle. Notre texte parle d'actions menées en commun. C'est un texte qui montre la communion des premiers chrétiens. Comment se passent nos moments de prière en assemblée? Nos réunions de prière du vendredi et le petit nombre qui y est. Alors vous pouvez dire, oui, il peut parler, lui, il n'était pas là vendredi, effectivement. L'un ou l'autre peut être retenu par le travail ou par la maladie. Comment se passent nos moments de prière du dimanche? Je ne suis pas le premier à poser la question, mais je pense qu'il est bon de se la poser plusieurs fois. Avons-nous si peu de sujets de reconnaissance envers Dieu? Et plus inhabituellement, avons-nous si peu de demandes à partager à Dieu? Que chacun s'examine soi-même devant le Seigneur. Dernier élément qui est évoqué dans ce texte, la communion fraternelle. Alors quand on parle de communion fraternelle, la réaction qu'on peut avoir, c'est « Ah oui, c'est vrai, les gens, les autres, là, ils pensent pas assez à moi. » Non, c'est pas la bonne réaction. Alors certains peuvent dire « Bah oui, la communion fraternelle, moi j'y participe, je vais à tous les repas fraternels qu'on organise. » Oui, bon. Si c'est que ça, c'est peut-être pas non plus la bonne réaction. Je vous invite plutôt à lire les épîtres de Paul, et en particulier les parties qu'on lit pas souvent, tout au début et tout à la fin. On voit à quel point Paul connaît ceux à qui il écrit, des gens qui sont loin, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, mais dont il prend des nouvelles, des gens dont il connaît les préoccupations, dont il connaît les difficultés. C'est un exemple important, c'est un exemple que nous devons suivre. Même avec la distance, Paul avait ce souci des gens qu'il connaissait dans les assemblées et aussi ce souci de faire connaissance avec ceux qu'il ne connaissait pas encore. Allez, petit exercice, tournez-vous vers ceux qui sont autour de vous, ici, maintenant. Et demandez-vous si vous connaissez quelles sont leurs joies, leurs peines, leurs difficultés. Bon, si autour de vous, c'est juste votre famille, regardez un petit peu plus loin. Je vais vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée. Dans une assemblée où nous étions précédemment, chacun pouvait donner de ses nouvelles à l'assemblée le dimanche. Un dimanche, je suis monté pour donner de nos nouvelles. Je leur ai dit... Comme vous l'avez remarqué, nous étions absents depuis 3 semaines. Et là-dessus, un froid glacial s'est abattu sur l'assemblée car personne n'avait remarqué que nous avions été absents 3 semaines. Et pourtant, dans cette assemblée, nous étions actifs dans les nombreuses activités, que ce soit l'enseignement des enfants, les réunions administratives, la chorale, etc. Et pourtant... notre absence était passée totalement inaperçue. Et puis j'ai continué en leur disant « Annie est à l'hôpital ». Et là encore, le froid est devenu encore plus glacial puisque personne ne nous avait demandé de nos nouvelles. Qu'en est-il ? Avez-vous remarqué l'absence de l'un ou l'autre ? Quel souci avez-vous de ceux qui ne sont pas là ? Avons-nous demandé de leurs nouvelles ? Quel contact avons-nous avec les frères et les sœurs en dehors des réunions ? J'irai même plus loin. Pour les réunions, arrivons-nous suffisamment tôt pour échanger avec les uns et les autres, ou juste à temps pour nous asseoir ? Alors, vous pouvez me dire, oui, il est rigolo, il dit ça le jour où il y a de la neige et où on a été bloqué, on n'a pas pu arriver. Il n'y a pas de la neige tous les dimanches. Est-ce que nous restons pour partager fraternellement les uns avec les autres, ou est-ce que nous disparaissons juste après avoir entendu « Bonne semaine à tous » ? Quelle communion fraternelle avons-nous les uns avec les autres ? Alors, ces quatre attitudes, elles étaient l'attitude des premiers chrétiens. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi ils faisaient ça ? C'était quoi leur motivation ? Jésus l'a expliqué. Là aussi, c'est quelque chose de base que vous connaissez. Matthieu 22, 36 à 40 nous le dit. Matthieu 22, 36 à 40. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » C'est Jésus qui nous dit cela. La motivation, le moteur de tout cela, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et les sœurs. Et Jean, dans sa première épître, remet une couche à cet enseignement. Il insiste sur le fait que, effectivement, l'amour est quelque chose d'important. 1 Jean 4, 20 et 21 nous dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » L'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et les sœurs. Bon. Si je parle d'amour, quel passage je vais vous lire ? 1 Corinthiens 13. Alors, on ne va pas lire tout 1 Corinthiens 13, on va juste lire le verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Quel impact pour nous ? Comment on met en pratique tout ça ? L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, je peux essayer d'y persévérer. Mais c'est inutile sans la bonne motivation. Il faut que chacun s'examine. Je l'ai déjà dit, je le redis et je le redirai certainement encore. Quel amour est-ce que j'ai pour les frères et les sœurs ? Quel amour est-ce que j'ai pour le Seigneur ? Prions. Seigneur, je veux me placer devant toi et te demander de m'éclairer sur cet amour, l'amour que j'ai pour les frères et les sœurs, l'amour que j'ai pour toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est toi qui produis les choses quand nous te laissons faire. C'est toi qui nous montre en premier lieu ton amour envers nous. Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur et guide-moi. Amen.
Quel privilège nous avons eu d'avoir passé ces moments autour de la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ce qu'on a? Tout était bien présenté, bien pratique, bien évident. Alors on doit avoir du changement. Il y a une chose qui me dépasse complètement, beaucoup de choses me dépassent, mais c'est le dessein du Seigneur de nous rendre tel qu'il est lui. Alors ça paraît impossible, mais après tout ce qu'on a vu ce matin, eh bien, il est là pour nous faire réaliser sa parole. Alors, on peut encore le remercier, c'est encore un de ses bienfaits. Compte les bienfaits. Te remercions, Seigneur, de ce que tu prends tant soin de ceux que tu as rachetés, ceux que tu as... Tu leur démontres, et tu l'as fait encore ce matin, toute la dimension de ton amour. Toute la persévérance de ton amour, parce que nous sommes assez souvent des auditeurs oublieux, mais tu nous as mis ce matin en face de la réalité et nous t'en bénissons, parce que on ne peut pas avancer si ce n'est pas droit, si ce n'est pas sain. Merci. Merci de prendre soin de chacun et de nous ensemble. Amen. Amen.